France Inter.
Vous écoutez France Inter, il est midi et demi. L'équipe du 13-14 est sur le terrain aujourd'hui. Émission en direct d'un fort qui m'évoque une tyrolienne, des araignées et les énigmes du père Fouras. Bonjour Jérôme Cadet.
Oui, c'est exactement ça. Bonjour Dorothée Barba. On fait ce qu'on peut pour trouver de la fraîcheur aujourd'hui et on est servi. Quel meilleur poste d'observation que ce vaisseau de pierre en pleine mer entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron pour mesurer les dégâts de l'érosion, car le fort Boyard se dégrade année après année et la montée du niveau des océans n'y est pas étranger. Alors le conseil départemental de Charente-Maritime va engager des travaux titanesques dans quelques jours pour sauver le fort, le préserver au maximum de la houle. On va vous expliquer comment et avec quel budget. Et en même temps, l'objectif c'est aussi d'accueillir du public ici. Ce sera la première fois dans 3 ans parce que ce fort est devenu petit à petit, depuis le lancement du jeu télé il y a 35 ans, un monument auquel les Français sont très attachés. Et la mezzanine sur laquelle je me trouve en ce moment, au cœur du fort, au-dessus de la salle du trésor, cet endroit est bien connu des téléspectateurs et de vous, notamment Dorothée, je
vous
le note.
Pas le vertige, Jérôme.
Non, mais là je suis sur la passerelle en bois, donc tout va bien. On aura peut-être l'occasion d'avoir le vertige tout au long de cette émission tout à l'heure. Donc on va vous raconter les coulisses aussi de cette émission, de ce programme, et parler des conséquences du réchauffement climatique. Voilà pour notre venue ici. On parlera aussi de toute l'actualité de ce jeudi, et ça ce sera avec Céline Asselot. À tout à l'heure.
Merci Jérôme Cadet, à tout à l'heure, 13h.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La place des fermes est-elle aussi en ville? Cultiver des légumes au milieu des immeubles, ce n'est pas seulement une affaire de décor ou de poumons verts. Il s'agit de nourrir, de produire une alimentation saine et de proximité, mais aussi d'éduquer, de sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques. Nous parlons d'agriculture urbaine aujourd'hui. C'est le département du Val d'Oise, en région Île-de-France, qui est à l'honneur toute la semaine dans les carnets de campagne. Je reçois une paysanne heureuse et fière de travailler en ville. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Delphine Tavernier.
Bonjour Dorothée.
Bienvenue dans les carnets de campagne. Vous êtes maraîchère à Cergy Village, qui est le quartier historique de Cergy, dans le Val d'Oise. Votre potager La Belle Vie est installé, et ce n'est pas banal, sur un ancien terrain de foot qui était à l'abandon. Est-ce qu'il y a des traces de ce passé sportif sur votre parcelle ?
Alors oui, il y a quelques traces, on peut encore voir les emplacements des buts et puis on distingue encore l'ancien emplacement de la tribune, donc il y a quelques petites marques du passé. Après, le terrain, il a été abandonné pendant 12 années, donc il a vraiment été remis à l'état naturel avec de la végétation qui s'est réinstallée du fait qu'il n'y avait plus personne qui pénétrait sur le lieu. Donc la ville de Cergy a cherché vraiment un petit peu par tous les moyens à revaloriser ce lieu qui était, on va dire, plutôt à l'abandon. Et c'est vraiment le projet agricole qui s'est dessiné pour remettre en valeur le lieu.
Vous cultivez en bio, vous vendez en circuit court et vous avez une vision de votre métier qui dépasse la simple production de fruits et de légumes. Quelle est la raison d'être, selon vous, de cette ferme ?
Moi, je dirais que la raison d'être, c'est vraiment le retour à l'humain. Reconsidérer le métier d'agriculteur comme un métier de proximité avec les gens, de partage, de lien social. Enfin, c'est peut-être aussi mon passé, comme j'ai vécu plus dans un milieu rural, à la ferme, avec des grands-parents qui étaient très impliqués dans leur ferme. Je trouve qu'on a perdu vraiment la convivialité de la ferme, de tout ce qui peut rejoindre les considérations alimentaires. C'est la particularité, je dirais, c'est retrouver vraiment ce lien à la terre, aux gens, à travers l'alimentation.
Les fermes urbaines sont en train de se développer un peu partout en France, et notamment grâce au réseau AFOP, l'Association française de l'agriculture urbaine. Pourquoi est-ce qu'il est important, d'après vous, de pratiquer en ville l'agriculture ?
C'est le lien à l'alimentation et le lien à l'autre. Faut considérer la personne qui produit. Je pense que c'est important de faire comprendre aux citadins que l'alimentation, elle n'est pas venue toute seule dans notre assiette, qu'il y a tout un cheminement, il y a une filière qui doit être construite, il y a tout un tas de maillons, en fin de compte, qui font que de la graine à l'assiette, il y a quand même un sacré parcours. Et j'ai l'impression, après peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ce lien au travail de la terre, à la considération de tout ce qui fait qu'on peut travailler la terre, c'est-à-dire par exemple un revenu décent, avoir une bonne biodiversité autour de soi pour que le travail puisse être fait de façon agréable. Sans la biodiversité, les villes, elles meurent aussi. Hein. C'est pas seulement un problème des campagnes, la biodiversité. Donc, c'est vraiment le lien dans son ensemble. Si on arrive à faire comprendre aux citadins un petit peu plus l'aspect paysan, c'est pas en soi ce que je cherche à faire en priorité. En priorité, moi, mon idée, c'était vraiment de produire des légumes, de réussir à produire des légumes, on va dire. Et dans un second temps, c'était transmettre au travers d'ateliers pédagogiques.
Et vous êtes aussi en lien avec les écoles autour de
voilà,
vous. Comment ça se passe ?
Deuxième aspect, ouais, c'est ça. Le terrain permet vraiment, comme c'est une petite structure, ça permet vraiment d'accueillir les écoles, les classes, jusqu'à une centaine de personnes sur une journée. C'est de la découverte. Pour les enfants, c'est vraiment... Eux, ils vont prendre possession du lieu, donc ils n'ont pas forcément l'habitude de se retrouver, on va dire, un peu en pleine nature, ou au moins dans un champ, ils ne vont pas dans les champs. Donc c'est la liberté. Et au-delà de cette liberté, il y a quelques apprentissages.
Et vous avez l'impression de semer des graines, justement, dans leur tête, peut-être de leur faire comprendre les saisons, tout simplement.
Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai que les saisons, c'est pas quelque chose qu'ils perçoivent. C'est compliqué comme notion. Alors, certainement que quand on est à la campagne, on voit davantage les saisons que quand on est en ville. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au travers d'alimentation, on voit plus du tout les saisons. On peut manger la même chose toute l'année. Donc, c'est complètement effacé de nos considérations. Et par contre, les enfants comprennent bien ça. Ils comprennent bien que c'est assez bizarre, finalement, de faire venir des produits de 8000 kilomètres. Pourquoi est-ce qu'on mange pas les pommes qui sont juste là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des arbres dans l'école? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un petit temps pour cultiver un potager le temps du midi? Enfin, ça, c'est des choses qui les intéressent.
Votre installation dans ce potager de la Belle Vie à Cergy est assez récente, hein. C'était il y a 3-4 ans.
Ouais, c'est ça.
Et la difficulté d'installation, c'est un combat qui vous tient à cœur, je crois, Delphine Tavernier. Ouais. C'est un sujet dont on parle trop peu, d'après vous ?
Je pense pas en avoir entendu parler à la radio rarement, parfois dans des émissions. Oui, le petit souci qu'on a avec l'agriculture, c'est que c'est un manque de considération générale. Il y a 1% d'agriculteurs en France, donc c'est vrai que c'est pas un métier qu'on va forcément, on va pas forcément faire référence à ce métier-là. Et la marche, en fin de compte, pour s'installer en agriculture, elle est immense. Après, une fois qu'on est installé, on va dire qu'on gravit des petites marches les unes derrière les autres, mais la marche à franchir pour passer le cap, de se dire oui, je vais prendre le risque de prendre un emprunt à 400 000 euros pour installer des hangars, une structure, un tracteur, et puis accepter cette endettement-là, alors qu'il y a quand même un gros problème avec le réchauffement climatique, des aléas climatiques très très forts, de plus en plus d'inondations, des tempêtes, des dégâts. C'est très compliqué, une production, elle est à risque. En fait, l'agriculteur qui va perdre sa récolte, il perd tout, il ne peut plus rembourser son emprunt. Et on comprend la difficulté quand même d'exercer ce métier-là quand tout l'emprunt repose sur une seule personne qui n'est pas certaine au final de faire perdurer son activité.
Et c'est d'autant plus difficile quand on choisit, comme vous, de travailler en agriculture biologique.
En agriculture biologique, il y a une marge de plus. Parce que, en fait, souvent, ce que j'explique aux enfants, c'est que c'est pas un agriculteur, quelqu'un qui choisit l'agriculture biologique, c'est un médecin, en fait. On est obligé de réparer le sol, on est obligé de soigner. Donc, en fait, on rentre dans une démarche de soins. Et, en fait, c'est un double métier. On doit prendre soin des insectes qui nous entourent. On doit réfléchir à pas enlever les hautes herbes qui abritent, la faune, en fait. Donc, on réfléchit beaucoup plus, on va dire. Et ce qui se passe, oui, c'est que il y a un temps qui est pas du tout négligeable sur préserver la biodiversité, en fait, pour le bien de chacun.
Et la présence de fermes en ville, justement, est-ce que c'est aussi une façon de rapprocher les agriculteurs et agricultrices du grand public pour faire connaître ces difficultés d'installation ?
Ouais, je pense que ça peut... Alors, moi, de ce que je peux voir, j'accueille aussi des stagiaires qui sont en formation agricole. Et souvent, ils sont passés par des fermes urbaines, par des chantiers, le woofing aussi.
Le woofing, c'est quand on s'installe dans une ferme pour y travailler en échange du gîte et du couvert.
Voilà, c'est ça. Donc, ça fait des échanges avec le métier d'agriculteur. La personne, elle a juste un petit pied comme ça dans l'agriculture. Mais ça peut aussi créer ces fameuses petites graines qu'on sème. Et puis après, ça peut créer des vocations, des gens qui vont vraiment avoir envie d'en faire leur métier, quoi. Donc, c'est vrai que si on n'ouvre pas les portes des fermes et si on ne met pas des petits terrains à disposition des gens pour les faire renouer avec la terre et, si possible, créer des vocations, moi, je ne vois pas forcément comment est-ce qu'on arrive à maintenir une agriculture en France. C'est un des leviers, certainement.
Et c'est pas un peu frustrant pour la maraîchère que vous êtes d'être installée à Cergy en Île-de-France plutôt qu'en pleine campagne?
Moi j'aime bien la petite surface. j'ai vécu à la campagne et j'aime bien la ville. Donc moi ce projet-là, c'est ce que je voulais faire, c'était vraiment un peu de campagne en ville. Donc ça ressemble à ça. Et je dirais que moi personnellement la campagne ne me manque pas vraiment. Je suis pas particulièrement attirée par la ruralité. Mais c'est plus le côté paysan et humain de cette ruralité qui, moi, me manque. Pas forcément les grands espaces, parce que c'est énormément de travail pour gérer tout ça. Plus on a de champs et plus on a un temps à passer pour gérer. Donc le côté petite surface, moi je dois dire que ça me convient parfaitement. Surtout que l'ambition c'était aussi d'y faire un accueil du public. Et je me verrais pas forcément faire de l'accueil si j'occupais un champ de 5 hectares, je saurais pas comment faire. Donc ça c'est l'intérêt d'être en maraîchage petite surface.
Taille humaine en effet, puisque c'est un ancien terrain de foot, je le rappelle. Mmh. Qu'est-ce qui pousse à la place des anciennes cages?
Alors moi je fais vraiment des légumes assez variés en suivant les saisons. Donc là en ce moment j'ai installé tous les légumes pour avoir les légumes, on appelle ça les planchots, les légumes d'été, donc aubergines, tomates. Sachant que j'ai investi le lieu au fur et à mesure. Mais voilà, si le panier est très varié, moi ça me va.
Et pour la suite, il y a un projet de créer une AMAP, c'est ça?
Oui, voilà, c'est l'intérêt d'avoir un petit réseau d'habitants qui vont pouvoir consommer les légumes de la ferme de façon très régulière, qui viennent en soutien en fait. L'AMAP, c'est donc une association de maintien à l'agriculture paysanne. Il en existe en Île-de-France. Il n'en existe pas à Cergy, donc l'idée c'est vraiment de créer cette association qui ensuite précommande des paniers de légumes.
Et qui assure un revenu surtout.
Et voilà, qui justement permet de planifier les choses et dont le revenu de l'agriculteur, l'agricultrice que je suis.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Delphine?
Le contact avec les gens, ça me plaît, d'avoir des légumes savoureux. À égalité, en fait. C'est avoir des légumes qui ont du goût, apparemment, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver. Et quand j'arrive à faire des bons légumes qui ont vraiment du goût, là, par exemple, il y a les fraises, elles sont dingues. Bah, ça, je trouve que c'est génial, en fait. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais c'est quand même super, quoi.
Potager, la belle vie, c'est bio et c'est donc à Cergy dans le Val d'Oise. Merci beaucoup Delphine Tavernier.
Merci Dorothée.
À bientôt.
À bientôt.
Autre initiative dans le Val d'Oise. Marc, un auditeur des Carnets, nous a écrit pour attirer notre attention sur OWAT Citoyen. OWAT, je le précise, s'écrit OWAT, comme l'unité de mesure de la puissance électrique. Cette association créée dans l'agglomération de Cergy-Pontoise participe à la transition énergétique en aidant à l'installation de centrales photovoltaïques. Nous avons créé une société coopérative, poursuit cet auditeur, pour financer des travaux d'installation grâce à la participation citoyenne. La première centrale a été installée sur les toits de l'ESSEC, École de Commerce, à Cergy. 770 panneaux solaires au total. Et d'autres chantiers sont en cours de réalisation, notamment sur la toiture d'un gymnase à Pontoise. Sylvie, une auditrice, nous a aussi écrit pour parler de cette même coopérative. Je la cite, « En investissant une partie de son épargne dans OWAT Citoyen, on a un meilleur contrôle de la destination de notre argent qu'en le déposant à la banque et on participe au bien commun. » OWAT Citoyen, c'est à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise. Je voulais aussi vous parler d'un événement organisé par le pilier de cette émission. J'ai nommé Sophie Hoffmann, attachée de production des carnets de campagne. Elle est aussi la créatrice d'une association de prévention santé autour du cancer du sein, baptisée My Boob Story. Elle y a d'ailleurs consacré un podcast que je vous conseille, My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein. Et elle organise la semaine prochaine avec l'association ASAC une journée sport et santé à Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95. Rendez-vous au gymnase d'Épluche le 28 juin de 13h à 20h pour des tournois parents-enfants, du basket, du tir à l'arc, du ping-pong et j'en passe, mais aussi des stands d'info-santé et de sensibilisation proposés par la Ligue contre le cancer. C'est gratuit sur inscription et vous trouverez un lien sur notre site internet. Journée sport et santé à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise, samedi 28 juin. Et enfin, voici le message d'Yvon, auditeur d'Argenteuil. Je souhaite vous faire part d'une très belle initiative locale qui remporte beaucoup d'adhésion et de succès, écrit-il. C'est une ressourcerie appelée l'Argenterie, avec T-R-I à la fin, comme le tri dans vos placards que vous êtes invité à faire pour donner des objets qui seront ensuite vendus à prix solidaire. L'association occupe beaucoup de bénévoles qui y sont désormais très attachés, écrit Yvon. L'Argenterie, c'est donc à Argenteuil, dans le Val-d'Oise.